comme ce refrain, on dit assez facilement que les voyages forment la jeunesse, que partir ouvre l'esprit grâce à la rencontre d'autres cultures et qu'on y apprend beaucoup. Le voyage des étudiants entre universités a d'ailleurs toujours fait partie de l'initiation des futurs jeunes diplômés.
Le monde entier est notre patrie à tous, disait Erasme au Moyen-Âge. Pas étonnant qu'on ait choisi son nom, Erasmus, pour désigner un programme d'études à l'étranger. Parce que comme à l'époque, se former, acquérir des compétences, c'est un puissant motif pour partir au loin.
Celui qui n'a pas voyagé est un ignorant. Encore deux siècles plus tard, Shakespeare enfonce le clou et il dit « La jeunesse qui se borne au logis a toujours l'esprit borné ».
Aujourd'hui en Europe, il est institutionnalisé par le programme Erasmus+, qui s'est vu attribuer une augmentation de plus de 80% de son budget pour la période 2021-2027. Qu'attend-on de ces échanges? Quels étudiants y participent et à quoi sont-ils réellement formés? Pour le savoir, nous avons mené l'enquête.
Enquête d'école, Adeline Outchanger.
Le projet Erasmus vient du combat de Sofia Corradi, une étudiante italienne. Après l'obtention de son master de droit à l'Université de Columbia en 1958, son université italienne lui refuse l'équivalence, lui reprochant ses voyages, vus comme une frivolité et non comme un réel parcours de formation. C'est de sa lutte que va naître l'idée d'une équivalence des diplômes entre pays européens, au point de la nommer « Mama Erasmus ».
Mamma mia, dammi 100 lire, che in America voglio andare.
Erasmus est un acronyme en anglais qui signifie « Plan d'action européen pour la mobilité des étudiants des universités », tout en faisant bien sûr référence à la figure de l'humaniste Erasme. Le programme prévoit des accords entre les universités et des bourses allouées aux étudiants pour soutenir leur départ. En 2021, le programme s'étend même à d'autres profils.
Erasmus, c'est un programme d'échange étudiants, mais pas seulement. Collégiens, lycéens, apprentis, formateurs et enseignants, demandeurs d'emploi et jeunes diplômés peuvent également en bénéficier. Ils ont le choix entre 34 pays d'Europe. Et depuis 2014, cela s'étend à 167 pays du monde. D'ailleurs, on dit aujourd'hui Erasmus+.
Pourquoi cet investissement conséquent dans les échanges entre pays? Quel objectif poursuit l'Union européenne? Il est difficile de répondre à ces questions, car les enquêtes sur les étudiants Erasmus sont peu nombreuses, anciennes et peinent à réellement évaluer les bénéfices de tels échanges. Cependant, l'élargissement du programme est une réponse à un constat. Seuls 4% des étudiants européens sont concernés par ces échanges, et parmi eux, très peu de jeunes des classes populaires et défavorisées, malgré les bourses spécifiques. Les freins économiques à la mobilité sont encore nombreux. Se pose la question du financement de cette année dans des pays où la barrière de la langue ne permet pas de trouver un job étudiant facilement. Le logement est un autre problème. Comment trouver et payer un logement à l'étranger? Peut-on se permettre de rendre son logement en France pendant cette période?
I go, but where is my home?
La France est le pays qui envoie le plus d'étudiants en échange Erasmus. En revanche, elle en reçoit deux fois moins. Ce déséquilibre met en doute la notion même d'échange au cœur du discours sur Erasmus. En réalité, quelques pays sont considérés comme attractifs pour l'extension géographique de leur langue, mais aussi pour leur développement technique et économique. Magali Balator observe dans son enquête que les étudiants français voient le départ à l'étranger comme une stratégie de distinction dans le contexte de massification de l'enseignement universitaire. De fait, 70% des mobilités étudiantes concernent les écoles d'ingénieurs et de commerce, qui concentrent 64% des classes socioprofessionnelles très favorisées.
C'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne, c'est pour tous les quotas français que je parle plus anglais. I'm not crazy, I'm just fond of you.
Et ce sont dans les universités les plus fréquentées par ces mêmes populations que les départs Erasmus sont les plus nombreux. Ainsi, l'université de Paris-Dauphine accueille moins de 4% d'étudiants défavorisés, mais envoie près de 36% de ses étudiants à l'étranger, contre 5% à l'université de Paris-Est-Créteil. Dans un contexte de dévalorisation de l'université, les familles font de la mobilité un critère de distinction, mais sans réelle évaluation des connaissances et compétences acquises. Ce constat s'étend à tous les étudiants en échange. Il est difficile d'évaluer les acquis. Le Royaume-Uni, lorsqu'il faisait encore partie du programme, imposait même une année supplémentaire à ses étudiants à leur retour de l'étranger. Le discours majoritaire des responsables d'échange et des étudiants eux-mêmes concerne davantage des savoir-être que des savoirs disciplinaires. L'existence des ECTS, le système européen de transfert et d'accumulation de crédits, et les accords entre universités n'ont pas supprimé l'opinion selon laquelle les voyages étudiants à l'étranger, c'est plutôt pour gagner en autonomie, en confiance en soi, et pour apprendre à s'adapter dans un milieu étranger. Les savoirs semblent secondaires. Les universités continuent de bricoler pour valider les UE, les unités d'enseignement, et Magali Balator observe qu'il n'y a pas de consensus quant aux apports académiques de ces mois à l'étranger. Certains étudiants subissent des épreuves de contrôle à leur retour, d'autres pas, et on constate ainsi que ces années sont très largement validées, ce qui tranche nettement avec le taux moyen de réussite à l'université. Un facteur d'explication est leur niveau de départ. Les mois passés hors de l'université d'inscription sont presque jugés comme perdus. Ce sont alors les étudiants les plus à l'aise, voire en avance, à qui on accorde le plus de partir. Et donc, ce sont ceux qui sont le plus à même de valider leur année, même à l'étranger. Les étudiants sont très majoritairement assidus en classe. Leur temps est centré sur les cours, malgré les préjugés. Mais on attend que soient développés davantage des soft skills, appartenant au discours managériel.
Si je te dis Erasmus, tu penses direct à quelques cours à la fac, des soirées, mais c'est pas ça qui va t'aider à payer le loyer. Et pourtant, si. En effet, une personne sur deux qui a fait un Erasmus l'a fait en stage dans une entreprise et a obtenu ainsi des compétences et un réseau professionnel. Et comme t'es tout seul dans un endroit que tu connais pas, t'es obligé de t'adapter, de trouver des solutions, d'entrer en contact avec les gens. Ça peut faire peur, mais c'est un des meilleurs moyens pour devenir plus mature. Et ça se voit dans les chiffres. 86% des apprenants qui ont fait un Erasmus se sentent plus autonomes à leur retour. Et 93% d'entre eux se trouvent plus débrouillard. C'est également une expérience très recherchée dans les CV par les recruteurs, sûrement car elle améliore nettement les compétences linguistiques, mais aussi les compétences transversales, c'est-à-dire travailler en équipe, prendre des responsabilités, des initiatives, alors t'arrêtes pas aux préjugés et n'hésite pas à partir avec l'aide d'Erasmus+.
En dernier lieu, Erasmus est vu par l'UE comme le moyen de développer une citoyenneté commune et de renforcer l'identification à la démocratie européenne.
Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'Union européenne, ils ont bien compris que Erasmus légitime un peu l'existence des institutions européennes pour les citoyens, leur intérêt pour les citoyens, là où les citoyens se sentaient un peu hors du champ, enfin, en tout cas des premières mesures qui ont été prises, qui étaient assez éloignées de voilà. Donc, je pense que ça donne des lettres de noblesse à la construction européenne, ça lui donne son caractère. C'est pour ça qu'on parle de programme populaire, même s'il n'est pas populaire.
À nouveau, ces éléments sont peu évalués et les chiffres les plus récents indiquent que les personnes qui sont parties en Erasmus s'estiment pour 76% plus européens plusieurs mois après leur retour. Néanmoins, ce chiffre tombe à 57% immédiatement après leur séjour, sans qu'il y ait d'interprétation proposée à ce chiffre. On peut supposer que, au contraire, comme toute expérience migratoire, le séjour à l'étranger renforce le sentiment d'appartenance nationale, l'impression d'être le fruit d'un pays, comme le dit Magali Balator. Et les récits Erasmus sont souvent imprégnés, malgré eux, de visions culturalistes. Cette étudiante partie à Dublin, par exemple, dit
« La différence aussi, c'est qu'ils ont beaucoup de mal avec le second degré, de manière générale. Très premier degré. C'est très propre à l'humour français. Donc si vous avez un humour bien français, faites un petit peu attention quand même, pour éviter les malentendus. Aucun rapport, mais la nourriture française va énormément vous manquer, sachez-le. N'hésitez pas à demander à vos proches de vous envoyer des colis de bouffe. »
En effet, en Erasmus, les étudiants fréquentent majoritairement d'autres étudiants étrangers qui partagent le même statut, souvent dans les mêmes lieux d'habitation. Cette autre étudiante partie en Irlande nous en donne une illustration.
Donc à la fac, il y avait énormément d'Erasmus français, mais j'ai réussi à me faire un groupe de potes assez mixte. Donc même si on restait une majorité de français, il y avait quand même des Allemands, des Autrichiens, des Danois, donc je parlais quand même un peu anglais. Et ce qui était cool avec ma bande de potes, c'est qu'on vivait tous un petit peu à côté. Du coup, on était tout le temps ensemble.
Ainsi, la question de l'intégration et de la compréhension de la culture du pays d'accueil n'est pas une pression qui pèse sur les étudiants Erasmus pendant leur séjour universitaire. En revanche, on peut espérer que les échanges en collège et lycée, entre entreprises et organisations, qui sont compris dans le nouveau programme Erasmus+, donnent davantage l'occasion de faire du lien avec les populations locales. En conclusion, il semble difficile d'évaluer concrètement les acquis des échanges Erasmus. Les enquêtes du CEREC constatent les effets des séjours à l'étranger sur l'insertion professionnelle après 3 années de vie active sont donc faibles et concernent les expériences les plus valorisantes, celles où les jeunes issus des milieux les plus défavorisés sont relativement absents. En revanche, les acquis individuels qui relèvent du développement personnel restent souvent remarqués et seraient profitables à bon nombre d'élèves et étudiants. Tonight, we are young. Or, pour les publics les plus précaires, c'est aussi l'information et le soutien qui leur manquent. Les éléments déclencheurs sont alors soit les pairs, soit des professeurs ou responsables de programmes qui diffusent cette information et les accompagnent dans les démarches.
C'était Enquête d'école avec Adeline Unscheringer et Sébastien Boudin à la réalisation et au mixage. Retrouvez toutes les références sur le site de Cadécole et rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.